Sylviane Serruya, l'auteur de l'histoire des Juifs du bassin méditerranéen, et plus particulièrement celle de Moïse de Tétouan, est au micro d'Alexandre Rosenberg de Radio Judaïcane, que vous pouvez retrouver sur les fréquences de RCN, Radio Shalom Nitsan. Bonne écoute à vous.
Bonjour à tous. De tout temps, la tradition juive lie rituel et savoir. Et le rapport à l'Éternel que nous avons tous en nous exige de transmettre une mémoire active, de génération en génération. En enseignant et observant les préceptes, les rites et les traditions du judaïsme, le 3 décembre dernier, l'émission était consacrée à l'association ACSE, qui œuvre à la préservation et à l'entretien du cimetière Saint-Eugène de Bologhine à Alger. Dans le prolongement de ce retour vers notre passé et des questions existentielles qui en découlent, d'où je viens, qui je suis, où vais-je, j'aimerais vous faire partager ma dernière lecture sur Moïse de Tétouan, de Sylviane Serruya, paru aux éditions BOD. Son père, Jacob Serruya, né à Oran, semblait être le dépositaire infaillible et intemporel de cette mémoire familiale et de son patrimoine culturel et historique. À sa disparition, elle prend conscience qu'elle devient le maillon familial essentiel, indivisible et indispensable du présent reliant le passé et le futur, et qu'elle doit retrouver les traces, remonter le fil, raconter les péripéties du douloureux chemin rempli d'embûches de l'histoire des Juifs du bassin méditerranéen qui fait partie intégrante de l'ensemble de l'histoire du peuple juif, trop souvent pourchassé et persécuté. Sylviane Serruya, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci, merci d'être venue. J'ai trouvé votre livre fort intéressant.
Merci.
Avec Moïse de Tétouan, sa mémoire en héritage, 1492-1962, vous racontez dans ce livre comment et pourquoi les Mégorachim, ces juifs originaires de la péninsule ibérique, sont arrivés en Afrique du Nord à la fin du XVe siècle. Né à Oran, vous avez vécu l'exil des Pieds Noirs, ce qu'on appelle des Pieds Noirs, étudié à l'Institut Hispanique de Paris avant de devenir professeur certifié d'espagnol à l'Éducation nationale. Vous êtes passionné d'histoire et de généalogie, et un peu ethnologue quand même. Vous écrivez le devoir de mémoire et le témoignage d'affection pour ceux à qui je devais la vie et le présent, m'obligèrent à devenir curieuse de leur passé que je fouillais. Est-ce que ce fut juste le départ, ou alors vous avez eu des pôles d'intérêt tout au long de votre parcours ? Est-ce que ça a évolué en fonction de vos recherches ?
Alors effectivement, ça a évolué, mais il y a eu un point de départ. Et le point de départ, ça a été le décès de mon père. Le décès de mon père en 1999 a été le déclencheur pour lui rendre hommage. Nous avions été choqués dans la famille par son départ subit et inattendu. Et donc, on était choqués. On a voulu retenir son image. Et moi, ma façon de retenir cette image, ça a été de faire des recherches généalogiques le concernant, des recherches sur son parcours personnel aussi. Je veux dire, sa biographie, il a été un grand médaillé militaire, enfin, il a eu la Croix de Guerre, l'équivalent de la Légion d'honneur chez les militaires, il a eu d'autres médailles qui m'échappent, parce que c'est pas ma préoccupation. Et donc, j'ai fait des recherches sur sa vie, sur la vie de ses ancêtres, et des ancêtres de ses ancêtres, c'est-à-dire les Mégorachim, expulsés.
Vous vous êtes senti investi ?
Je me suis senti effectivement investi tout au long de ces 10 ans qu'ont duré les recherches. Voilà, donc j'ai voulu lui rendre hommage, et à travers lui, effectivement, je rends hommage à tous ses ancêtres, à qui nous devons ce que nous sommes. Nous existons grâce à eux, et donc il fallait leur rendre hommage. Et la figure la plus ancienne que j'ai retrouvée, vers laquelle j'ai pu remonter, ça a été justement Moïse. Et Moïse, né en 1854 à Tétouan et arrivé à l'âge de 1 an à Oran. Et donc, ça m'a semblé tout à fait juste de lui rendre justice, de lui rendre sa dignité, vu les circonstances dans lesquelles il avait vécu et aussi mort. Donc, voilà. Donc, dans ce livre, j'ai voulu faire un devoir vous l'avez dit tout à l'heure, un devoir de mémoire collective vis-à-vis de tous ces juifs expulsés d'Espagne. Et donc voilà, donc j'ai avancé.
On va voir petit à petit ce devoir, mais vous en faites pas.
Voilà, et ce devoir de mémoire effectivement s'adresse en priorité à mes petits enfants. Et j'en ai 11, donc voilà, donc il y a beaucoup de partage à
tous
faire.
Tous mes compliments.
Il y a beaucoup de partage à faire, et donc et puis s'adresse aussi à tous ces descendants de Megourachim qui ont eu un parcours
à
similaire.
À tous ceux qui ont vécu finalement en Afrique du Nord.
Oui, parce que mon ancêtre a eu un parcours très représentatif.
Allez, on va le voir
exemplaire,
maintenant.
Voilà.
Nous avons tous en mémoire la date de 1492 avec l'expulsion des Juifs d'Espagne. Mais les persécutions anti-juives ont débuté en 1391 avec les baptêmes sanglants, ces massacres et conversions forcées fomentées dans la cité de Séville au sud et qui se sont propagées vers le nord en Castille et Aragon jusqu'en 1492. C'est toujours à la suite de graves problèmes économiques et sociaux que les crises, les révoltes se déclenchent en règle générale. Sylviane Serruya, est-ce que c'était le cas en Espagne ? Pourquoi il y a eu toutes ces ces révoltes, ces exactions?
Alors, depuis le Moyen-Âge, effectivement, les rois catholiques, enfin les rois d'Espagne, n'avaient de cesse que de vouloir convertir les juifs. Les juifs étaient jalousés pour leur entrepreneuriat, pour leur prétendue richesse, pour différentes raisons, pour leur différence, en fait. Et donc, et puis c'était un rappel aux chrétiens que c'était qu'ils avaient rejeté le Christ et que les chrétiens étaient le c'était une insulte pour
leur présence déicide.
Voilà, leur présence était une insulte pour ces chrétiens qui se prenaient pour le verrus Israël. Donc les chrétiens, les catholiques n'ont eu de cesse que de vouloir les convertir. Et donc bon, ce qui est arrivé en 1391, c'était pas un hasard, c'était la conséquence de plusieurs années de persécutions plus ou moins importantes pour convertir les juifs. Donc les juifs, bon, avaient la tête roide, donc et refusaient. Donc ils ont subi donc dès le printemps de 1391 des pressions pour se convertir. Ces baptêmes sanglants, comme vous l'avez dit, se sont répandus à Valence, dans la région de Valence, en Aragon, jusqu'aux Baléares.
Jusqu'au nord.
Et ça, donc on a eu plus de à cette époque-là, on a comment dire estimé qu'il y a eu environ 10 000 juifs qui ont été massacrés.
Dont 5 000 sur Séville.
Seulement.
Hein,
voilà,
le 6 juin
1391. Patolat, j'ai oublié le nom de la ville. Bon, bref, il y a une ville où il y a eu 4 000 juifs qui ont été massacrés aussi. Donc, partout, les juifs ont été massacrés. Et donc,
Sylviane Serruya, on va avancer un tout petit peu. À combien vous évaluez la population juive en Espagne à cette époque, 1390 comme ça? Allez, on va prendre juste avant.
1390, il y a à peu près 300 000 juifs, un peu moins de 300 000 juifs qui vivent en Espagne. Beaucoup vont se convertir par ces baptêmes. Oui, mais ils vont être importants à se convertir, plus ou moins officiellement, en espérant, ils ont attendu des circonstances meilleures pour revenir au judaïsme. S'ils pouvaient partir à l'étranger, ils partent à l'étranger ou retrouver leur vraie foi. Et sinon, donc ils attendaient que les choses se calment. Mais en fait, elles se sont pas calmées. Et quand on arrive en 1492, 100 ans plus tard quasiment, les rois catholiques aboutissent à ce décret de l'Alhambra qui est le constat qu'il est impossible de convertir ces juifs et qu'il est impossible de les garder aussi parce que ils incitaient les conversos qui étaient déjà convertis à pratiquer en cachette le judaïsme, à pratiquer le maranisme. Voilà.
Alors en 1492, avec l'expulsion des juifs d'Espagne, sur les 300 000 juifs, donc vous avez dit, qui vivaient dans le pays, 150 à 200 000 choisirent de partir, 93 000 en Turquie, 10 000 en Algérie, 9000 en Italie, 5000 aux Amériques, 3000 en France, 2000 en Égypte et en Hollande, et enfin 1000 en Grèce. Et ce qui va nous intéresser dans l'histoire, c'est que seulement 20 000 sont partis au Maroc, c'est-à-dire grosso modo 10% simplement. Mis à part le Maroc, bon, la France, etc., pourquoi la plus grosse partie est partie en Turquie, qui était loin quand même?
Eh bien, la Turquie,
c'était plus loin que l'Espagne.
Ils ont effectivement, le sultan Bajazet II a affrété lui-même des bateaux pour venir chercher des juifs espagnols.
Il avait besoin de juifs.
Il avait besoin de juifs pour booster
le commerce,
son économie, exactement. Il y avait des artisans, il y avait des hommes d'affaires, etc., qui allaient redynamiser son pays, l'Empire ottoman. Et effectivement, il y a des juifs qui vont jusqu'en Turquie, mais ceux qui vont dans la régence d'Alger, à Tlemcen, Oran, etc., cette région appartenait aussi à la Turquie, à l'Empire ottoman.
Oui, c'était l'Empire ottoman. Le Maroc n'en faisait pas partie à l'époque.
Voilà. Donc tout ça, ça rentre dans le même panier, j'allais dire. Donc les Juifs, pourquoi ils sont allés là? Parce qu'ils ont été encouragés. C'était quand même les Juifs n'avaient pas des conditions de vie égales à celles des musulmans, mais leurs conditions étaient quand même plus appréciables,
plus favorables qu'en Espagne.
Qu'en Espagne et que dans le reste de l'Europe. Je veux dire, il y a très peu de pays européens ont accepté les juifs. Une petite minorité, la plus riche sans doute, et la plus cultivée, est allée vers la Hollande. Pour les autres pays chrétiens, une minorité est allée vers Livourne, Venise. Nice a accueilli une grande communauté de juifs espagnols en 1492.
Oui, il ne faut pas oublier que l'Espagne, à ce moment-là, faisait aussi du commerce avec Venise. Donc, ils partaient, ils allaient vers Naples.
Voilà.
Naples, ils faisaient le tour de la botte et ensuite, ils remontaient sur Venise.
Voilà. Et c'était des villes indépendantes.
C'était juste à côté. Venise était à côté de la Grèce. Grèce, donc, automatiquement,
et aussi Turquie et les Balkans. Une petite minorité est allée au Portugal à ce moment-là aussi, mais pas pour longtemps, puisque quatre ans après, les Juifs ont été expulsés.
Absolument.
L'Inquisition a été instaurée là-bas quelques années plus tard. Donc les Juifs étaient pourchassés partout en Europe. Ce qui est arrivé en Espagne, ça s'inscrit dans un vaste mouvement de rejet et des Juifs à travers l'Europe. Déjà, en France, on avait banni les Juifs, en Angleterre aussi, puis ça allait être suivi après l'expulsion d'Espagne, ça allait être suivi dans le reste de l'Europe. En Sardaigne, en Pologne, donc c'était partout.
On continue l'histoire, Sylviane Sirouillat. Les moins fortunés, donc, choisirent le voyage le moins onéreux, le moins long, le plus facile, c'est-à-dire vers le Maroc, avec un sultan moulaï de Fès qui les accueillit sur ses terres et se montra bienveillant à leur égard. Alors j'ai mis cette phrase entre guillemets. Comme vous le soulignez, dans toute l'Afrique du Nord, il y avait de vieilles communautés juives. Ces communautés juives, donc, reçoivent des juifs espagnols qui ne ressemblent pas. Comment ils ont été reçus par ces juifs qu'on appelait Toshavim, qui n'étaient pas séfarades, qui étaient autochtones du Maghreb, qui étaient même des anciens hébreux qui étaient partis après la destruction du deuxième temple en 70. Comment ils ont été reçus?
Eh bien, globalement, on peut dire qu'ils ont été bien reçus, puisque ces juifs espagnols sont arrivés complètement démunis, complètement dénudés, je dirais même, sans argent, sans rien. Quand ils ont quitté l'Espagne, ils n'avaient pas le droit d'emmener leur or, leur argent. Il n'y avait pas de bonnet, il n'y avait pas de billets.
Certains avaient conservé les clés de leur maison.
Oui, c'est
vrai. Ils ont conservé même pendant 200, 300, 400 ans.
Ils avaient le droit d'emporter des meubles, mais pas des biens monnayables. Donc, les Juifs Toshavim, pour en revenir à votre question, les Juifs Toshavim ont accueilli ces Juifs, bien sûr, à bras ouverts. Ils leur sont venus en aide. Et vite, il y a eu comme un petit antagonisme entre les deux communautés. Les Juifs espagnols ont vite acquis une ascendance sur ces Juifs-là. Un siècle plus tard,
Ils avaient une certaine éducation que les autres n'avaient pas.
Européenne, voilà, que les autres... Enfin, que les autres n'avaient pas. Et effectivement, bon, voilà. Et donc, après, chaque communauté vivait séparée. Bon, ça s'est mélangé au fil des années, de nos jours. Je pense qu'on n'en parle plus. Mais
on verrait plus la différence.
Voilà. Donc, mais pendant en 1880, par exemple, en 1880, en Algérie, il y a eu un rabbin qui s'appelait Samuel Navon, qui a interdit tout mariage entre les juifs tétouanais, c'est-à-dire qui venaient de Tétouan et qui étaient donc à Oran. Les anciens d'Espagne qui arrivaient avec leurs préjugés de noblesse, etc., espagnols, et donc qui leur interdit tout mariage entre ces juifs tétouanais et les juifs oranais. Voilà, il fallait pas se mélanger, donc c'était la préfiguration peut-être des séfarades ashkénazes.
On revient à 1490-95 comme ça. À Fès, les Mégorachim néanmoins doivent vivre en dehors de la cité. Incendie, maladie, en raison d'une minorité qui se découragera et retournera même en Espagne et acceptera le baptême. Ceux qui se sont installés à Tétouan se sont adaptés et plantés leurs racines au Maroc. Sylviane Serrouillat, au fait, pourquoi Tétouan? Tétouan parce qu'il y avait... Enfin, si je regarde, j'ai regardé une carte du Nord comme ça, il y a Gibraltar, et puis juste en dessous, donc le Maroc. Mais il y avait d'autres ports, il y avait Ceuta, il y avait Tanger.
Il faut se replonger un petit peu dans l'histoire de Tétouan. Tétouan était une place forte, marocaine, chérifienne, qui servait de point de départ contre les attaques de la place forte espagnole qui s'appelle Ceuta.
Donc Ceuta et Tanger étaient espagnols.
Ceuta était espagnol, Tanger aussi, et donc les Marocains...
Au lieu d'aller chez les Espagnols, de retourner chez les Espagnols, on préférait quand même aller là où on pouvait les recevoir.
Non, mais il faut se mettre aussi à la place des Marocains. Les Marocains défendaient leur territoire. Les Espagnols avaient établi des présides, des places fortes en Afrique. Ils avaient des prétentions de conquête du Maroc. Donc les Espagnols, les Marocains, les chérifiens, se défendaient. Donc chacun avait ses places fortes et à partir desquelles ils s'attaquaient. Et donc la place forte de Tétouan, pour en revenir à elle, avait été détruite dans les années 1450 par les Espagnols et elle était, disons, laissée un petit peu à l'abandon. Et ce qui s'est passé, c'est que avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y a eu l'expulsion des musulmans d'Espagne
qui avaient ce nom.
Voilà, et qui sont venus s'installer en particulier à Tétouan. Et donc, ils ont contribué à l'essor du pays. Et quelques mois après, 4 mois après, il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et ben, ils ont suivi le même chemin. Ils sont venus s'installer à Tétouan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Tétouan, il n'y avait pas du tout de communauté juive avant. Les juifs espagnols sont arrivés, ils n'ont pas eu à s'intégrer dans une communauté, ils ont transposé toute leur façon de vivre qu'ils avaient en Espagne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils n'avaient pas trop de contact avec les Toshavim.
Sylviane Serrouillat, votre récit est si passionnant que j'en oublierai presque la pause. Allez, on va vous retrouver dans la deuxième partie dans quelques instants. Seconde partie de Judaïcan, mon invité Sylviane Serrouillat, auteur du livre Moïse de Tétouan, sa mémoire en héritage, de Mégorachim à Dimi, puis à citoyen français, paru aux éditions BOD. La période qui va de la conquête du royaume de Grenade, c'est-à-dire 1492, au traité des Pyrénées, 1654, soit de la fin du XVe au XVIIe siècle, a été appelée le siècle d'or espagnol, malgré les nombreux bateaux revenant des Amériques qui est écoulé. On verra plus loin pourquoi. Elle a expulsé les Juifs d'Espagne. L'histoire retiendra 3 grands mérites quand même qui sont attribués à Isabelle de Castille, Isabelle la catholique. Et puis Ferdinand Aragon, son mari, qui était uni par le mariage. Il y a l'autorité sur les 2/3 de la péninsule qu'ils ont réussi à rétablir, l'État et l'administration désormais au service de la monarchie. L'Espagne passe au premier rang des puissances européennes et conquiert le plus vaste empire colonial. Il y avait beaucoup d'or et d'argent qui revenait d'Amérique, qui avait été
pillé aux Indiens d'Amérique,
mais qui avait été découvert par Christophe Colomb. On verra son histoire dans votre livre. D'après vous, quelle corrélation y a-t-il entre l'expulsion des Juifs d'Espagne et ce siècle d'or espagnol? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux?
Alors, l'expulsion des Juifs d'Espagne a...
Est-ce que le fait que l'Espagne soit, on appelle le siècle d'or, donc c'était un siècle où l'Espagne était très riche, donc il y avait beaucoup d'argent, on commerçait énormément, est-ce que c'était dû aux bateaux qui arrivaient ou c'était dû simplement parce qu'ils avaient pillé les Juifs en Espagne?
Alors, c'est vrai qu'en fait, l'argent pillé aux Juifs au moment de l'expulsion d'Espagne a servi à renflouer les caisses de l'État après 7 années de reconquista, de reconquête de l'Espagne. L'Espagne avait été conquise par les Arabes au 7e siècle et reprise au 15e siècle. Donc, il y a eu 7 siècles de reconquête et les caisses de l'État avaient été épuisées. Ils avaient beaucoup de dettes à rembourser à des...
Où est-ce qu'ils avaient pris l'argent au départ?
Voilà. Donc,
chez les Juifs?
Bien sûr. C'est pas un hasard. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient expulsés, mais ils n'avaient pas le droit d'emmener leur or. Ils ne pouvaient emmener que des meubles. Donc, voilà.
Et surtout sur des bateaux qui étaient frêles, c'était intéressant. Hein.
Voilà. Donc, et en plus, voilà. Donc,
c'est une plaisanterie, hein, ce que
je disais. Bien sûr. Donc, les Juifs espagnols ont été dépouillés, effectivement. Ça renflouait les caisses de l'État. Et alors, vous parliez du siècle d'or, mais je voudrais dire une chose, c'est qu'effectivement, les bateaux revenaient, les galions revenaient chargés d'or, d'argent, de matières précieuses, mais ça ne restait pas en Espagne. Ça partait dans le reste de l'Europe, économiquement parlant.
C'est-à-dire qu'ils remboursaient des dettes, en fait.
Voilà, donc, ça n'a pas profité réellement aux Espagnols. Les Espagnols partaient pour travailler là-bas et revenaient quelques années plus tard avec les gains qu'ils avaient pu accumuler, mais l'argent rapporté en Espagne servait à enrichir...
Donc les Espagnols, en fait, ont pillé deux fois. Ils ont pillé les Juifs d'abord, ceux qui habitaient en Espagne, et ils ont été chercher le reste aux Amériques pour pouvoir rembourser leurs dettes.
Oui, on peut dire ça, voilà.
À ce stade de l'entretien, je passe rapidement sur ces Juifs espagnols du XVe siècle, mais vous le découvrirez en lisant cet ouvrage dont certains, surtout des jeunes Juifs, avaient un tel ressentiment vers l'Espagne qu'ils sont devenus pirates ou corsaires en Méditerranée, aux Caraïbes, et alliés aux Anglais, Hollandais et Turcs, et n'attaquaient que les galions espagnols. De l'autre côté de la Méditerranée, au XVIe siècle, sous le règne du sultan Moulay Ismaël, on repart dans le nord de l'Afrique, Tétouan, qui était appelée la Petite Jérusalem, connaît une période de prospérité avec tous les Juifs qui sont là, les Meshoravim. Sylviane Serouya, dû sûrement à ces nouveaux venus, à la civilisation qu'on disait originale et à la mentalité nouvelle, qu'est-ce qu'ils ont apporté avec eux? Qu'est-ce qu'ils ont apporté au Maroc à ce moment-là, à Tétouan?
Les Juifs.
Oui.
Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont apporté au Maroc? Ils ont apporté du savoir-faire.
Parce que la ville a explosé à un certain moment.
À Tétouan. Alors, on va parler de Tétouan plus précisément. Ils ont apporté leurs compétences en artisanat, en économie. Tétouan était aussi, je voulais le dire tout à l'heure, une ville qui tirait ses revenus du commerce, de la piraterie. Donc, c'était un repère de pirates, et d'ailleurs, c'était pour ça que les puissances étrangères, espagnoles en particulier, françaises et anglaises, attaquaient les côtes marocaines parce qu'ils en avaient assez de la piraterie en Méditerranée et ils ne pouvaient pas circuler comme ils voulaient. Donc, les Juifs tiraient donc aussi leurs revenus du commerce de la piraterie. Donc, du commerce... Alors, tout ce qu'ils pouvaient prendre sur les bateaux était revendu sur place. Donc, et les Juifs avaient l'habitude de commercer. Ils avaient l'habitude d'échanger en espagnol, en français,
en hébreu,
bien sûr, et en arabe. Donc, ils servaient d'intermédiaires entre les différentes catégories...
De traducteurs, d'intermédiaires.
Voilà, social.
Bien sûr.
Être traducteur, c'était un métier typiquement juif, par exemple.
Au XVIIe siècle, l'Espagne est en déclin, mais veut néanmoins conserver ses terres du nord du Maroc. Les sultans en place lèvent des troupes et attaquent les positions des chrétiens, c'est-à-dire les positions espagnoles, Ceuta et Tanger. Et pour financer ces guerres, bien sûr, ils exigent des taxes exorbitantes aux juifs. Et sinon, bah, c'était du pillage. Alors, je vais lire ce que vous avez écrit, justement, à ce propos. « À chaque génération, à chaque dégradation de la situation sociale et agricole, déstabilisation de la situation économique et politique, ou défaite militaire que les Espagnols infligeaient aux chérifiens, les juifs subissaient attaques et vengeances. La communauté juive, que fragilisait un manque de protection et de sécurité, constituait alors un souffre-douleur commode et une proie facile. » Sylviane Serrouilla, on voit que la vie des Juifs au Maroc, venus d'Espagne, n'a pas été ce qu'on appelle un long fleuve tranquille. Et encore, j'ai dû condenser. Hein.
Oui, absolument. Effectivement, les Juifs étaient tenus pour responsables à chaque fois que les puissances étrangères attaquaient les ports marocains. Ils étaient tenus pour responsables et donc on s'attaquait à eux, on dévalait dans les quartiers juifs, on les attaquait, on pillait.
Et c'était facile de trouver les quartiers juifs parce que de toute façon, ils étaient obligés de vivre en dehors de la ville.
Alors,
pas à l'intérieur.
Voilà, absolument. Alors au début, c'était pas une obligation pour eux, mais à partir de 1822, le sultan du Maroc va imposer aux Juifs de vivre dans le Mellah, et voilà, donc ce sera encore plus facile de les retrouver et de s'attaquer à eux.
Le XVIIIe siècle pour les Juifs de Tétouan est mitigé. Les sultans se succèdent, les pillages aussi. En 1790, première vague d'immigration de Juifs de la ville, cette fois-ci vers Oran. Oran en Algérie, et qui se prolongera jusqu'en 1830. 1830 et la conquête de l'Algérie. Sylviane Serrouilla, seule une minorité de riches pouvait se quitter et puis payer le voyage pour Oran. Et encore, ils étaient obligés de partir en bateau parce que par la route, c'était pas facile. Il y avait des bandits et tout. Comment ils arrivaient à trouver de l'argent ?
Déjà, pour sortir, il fallait avoir une autorisation.
Voilà, il y avait des contraintes.
Il y avait une autorisation, il fallait payer, il fallait laisser sa famille en otage pour être sûr qu'on revenait. Parce qu'en fait, les Juifs étaient une source de revenus pour les sultans, les caïds. Les sultans, les caïds ne pouvaient pas se permettre de laisser partir les Juifs parce qu'ils tiraient tous leurs revenus, ils les pressuraient, ils tiraient leur argent de leur présence. Donc, beaucoup de Juifs se sont sauvés en cachette, la nuit.
Surtout les jeunes, alors.
Voilà, les jeunes. Alors, les plus téméraires. D'ailleurs, il y en a qui sont partis en Algérie, mais à ce moment-là, il y en a beaucoup qui sont allés vers l'Amérique du Sud, vers les Amériques. C'était un voyage très difficile parce que il n'y avait pas les bateaux à vapeur. C'était que des bateaux à voile au départ. Le voyage durait un mois, voire deux mois. Ça dépendait des directions.
Avec les maladies, le scorbut et tout.
Voilà. Donc, et après, quand on est passé au bateau à vapeur, le voyage durait trois semaines. Donc, c'était les plus téméraires qui partaient vers l'Amazonie en particulier. Et donc, ceux qui étaient donc les plus fragiles, disons, se dirigeaient donc vers l'Algérie. Alors, pour y aller, on m'a raconté une amie m'a raconté que ses ancêtres sont partis à dos de cheval en passant par le sud du Maroc et en remontant ensuite en traversant.
En faisant attention qu'ils ne rencontrent pas de bandits.
D'autres sont partis par bateau puisque Tétouan c'était un port, une petite ville qui se trouvait à 10 km de la mer, donc il fallait remonter vers la côte et ensuite trouver un bateau. Les gens partaient la nuit quand la lune était cachée. Enfin bon, parce qu'il fallait, il y avait les brigands des routes qui s'attaquaient aux voyageurs. Donc c'était très et quand on se rendait compte que c'était des juifs, c'était encore plus dramatique. Donc voilà, donc c'était des conditions très difficiles. Donc moi je ne sais pas dans quelles conditions sont partis mes ancêtres. Je peux l'imaginer. Voilà, donc c'est, mais je n'ai pas de renseignements.
C'est le plus valeureux qui est parti.
Voilà.
Si de nos jours la communauté juive tenait et tient une place importante dans l'histoire du Maroc, et j'ai mis cette phrase entre guillemets, on vient de voir que les juifs du Maroc n'ont pas toujours été protégés. Au temps de la conquête arabe, puis de la conquête des Ottomans, ils avaient la position de dhimmi, ce statut discriminatoire et protecteur. La situation du juif dépendait du sultan, du bey, du moment, de la situation économique du pays et des finances des autorités. Dites-moi, pourquoi autant de juifs issus du Maroc seraient partis vivre en Algérie s'ils étaient bien ?
Ben voilà, bonne question. Eh bien, les juifs n'étaient pas si bien que ça, effectivement. Ils étaient en 1822... Quand les juifs sont arrivés à Tétouan, au Maroc, après l'expulsion des juifs d'Espagne, il y a eu un temps d'adaptation, et puis ils ont retrouvé leur aura, leur prospérité économique. Et puis leurs conditions de vie se sont dégradées d'une manière inexorable et continue jusqu'au 19e siècle, en s'aggravant les dernières années. Elles se sont dégradées, pourquoi ? Parce que, bon, on a fait allusion aux attaques des puissances étrangères qui insupportaient les attaques en Méditerranée, et donc les juifs servaient de bouc émissaire, mais il y avait aussi toutes ces d'autres raisons. On essayait de convertir les juifs de force aussi. Il y a eu 50 chefs de famille juifs qui ont été brûlés vifs à Fès. Donc les juifs n'en pouvaient plus de toutes ces conditions. Ils étaient pressurés par les impôts. Ils avaient le statut de dhimmi qui avait été rétabli, ce statut qui faisait d'eux des êtres inférieurs, des êtres soumis à l'islam pour pouvoir être protégés et vivre en terre d'islam. Donc tout ça devenait insupportable pour ces juifs marocains, et ils sont donc voulaient partir pour fuir toutes ces conditions d'insécurité sanitaire, d'insécurité économique, d'insécurité sur tous les plans. Donc voilà.
Vous faites même un parallèle, Sylvia Serrouillat, avec ce qui se passait à l'époque, mais cette fois-ci en Europe. Là, je vais lire une petite phrase. Les mesures de ségrégation que Moulay Slimane imposa n'étaient pas sans rappeler des vexations et mises à l'écart dont avaient été victimes ou l'étaient parfois encore les juifs dans l'ensemble des pays d'Europe. Donc vous avez retrouvé ça.
Oui, les juifs d'Europe, à cette époque-là, il y avait des pogroms à Kiev, des pogroms en Pologne. Voilà, donc on massacrait les juifs. Bon, alors là, de temps en temps, on massacrait des juifs, mais on leur permettait de vivre. On voulait pas les faire disparaître complètement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les juifs étaient une source de revenus pour les sultans et on pouvait pas s'en séparer. On les rejetait, mais on voulait pas s'en séparer. On voulait pas les laisser partir.
Nous arrivons à 1830, conquête de l'Algérie de nombreux mégorachim, ces juifs exilés d'Espagne, voulant fuir les persécutions et agressions au Maroc, ont choisi Oran. Sylviane Serrouillat, que cherchaient-ils à trouver à Oran et qu'est-ce qu'ils y ont trouvé ?
Alors,
pourquoi ils étaient attirés spécialement
voilà.
par Oran ?
Eh ben voilà, pourquoi Oran ? C'est une bonne question aussi, et c'était pas un hasard justement. Oran, d'abord, c'était une ville qui n'était pas très lointaine. Elle se trouvait à 300 km à vol d'oiseau, donc c'est une ville proche pour des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et puis à Oran et dans toute l'Oranie d'ailleurs, il y avait toute une tradition espagnole. Oran avait été occupé par les Espagnols globalement de 1509 à 1792, avec une interruption de 25 ans.
Vous avez laissé une infrastructure mobilière.
Voilà, immobilière, une façon de vivre, culinaire. Donc, il y avait des traditions. Et les Juifs pendant la première période où Oran avait été occupé par les Espagnols, les Juifs avaient la permission de vivre à Oran, alors que jusqu'en 1669, alors qu'il était interdit en Espagne, parce qu'il servait justement d'intermédiaire entre les populations musulmanes et les populations espagnoles. C'était des interprètes, des hommes d'affaires, et on les tolérait pour ça, même si on les maltraitait. Et ils avaient même le droit de ces Juifs qui vivaient au Oran jusqu'en 1669. Après, ils ont été expulsés. Ils sont venus justement à Nice, ceux-là. Donc, ils avaient même le droit de se rendre à la cour d'Espagne en cas de conflit avec des Espagnols. Alors, je disais pourquoi Oran. Ben voilà, donc à Oran, il y avait toute une tradition judéo-espagnole, et il y avait aussi donc des Juifs qui étaient venus là aussi avant en 1492 aussi.
Oui, donc ils se retrouvaient finalement dans un contexte qu'ils arrivaient à maîtriser.
On parlait espagnol à Oran, voilà. Les Arabes continuaient à parler un mélange de d'arabe et d'espagnol. Donc ils n'étaient pas en terre inconnue.
En 1855, les conditions de vie des Juifs à Tétouan, et peut-être même dans tout le Maroc, se dégradent de plus en plus, deviennent inacceptables et invivables. Vos ancêtres, eux, à ce moment-là, décident de partir à Oran. Les voyages étaient interdits pour les Juifs à l'époque. Comment ils ont fait pour sortir ?
Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'en sais rien.
Ils avaient de l'argent ? Parce qu'il fallait payer, de toute façon. Mais même le voyage, les voyages comme ça sont longs. À dos de chameau, ou même de toute façon, vous allez prendre le bateau, donc c'est difficile.
C'est difficile.
Il faut payer le capitaine, il faut souiller les marins, etc.
Mais mystère, il y a très peu de documents, d'histoires qui sont racontés. Je vous disais tout à l'heure, moi j'ai une amie qui m'a dit que ses ancêtres sont partis à dos d'âne. Voilà, donc c'est pas le Moïse qui a glissé sur le Nil ou sur la Méditerranée, mais je sais pas comment est parti mon ancêtre. D'autant qu'il est parti à l'âge de 20 ans.
Donc il est parti avec quelqu'un.
Bien sûr.
Il n'est pas parti tout seul.
Non. Alors donc avec ses parents, ou s'ils étaient vivants, dont je n'ai pas retrouvé d'informations, ou avec des oncles, des tantes, voilà.
L'histoire de l'Algérie n'a pas commencé en 1830, la conquête, oui. Pour comprendre comment s'est opéré le formidable essor économique, démographique, urbain de l'Algérie, le tout entaché d'un anti-judaïsme virulent de la part de nombreux Européens qui glissa vers l'antisémitisme, avec la remise en question permanente du décret Crémieux, il faut lire votre livre. Sylviane Serouillard, j'ai beaucoup aimé votre livre.
Merci.
Qui mêle l'histoire avec un grand H, l'histoire et le parcours de votre famille, semblable sûrement à de nombreuses familles de rapatriés. Vous êtes servi de la généontologie, vous avez revêtu un trench de détective privé même, comblé les lacunes que vous aviez historique par votre imagination et les manques de votre documentation que vous n'avez pu trouver. Pour tous ceux qui voudraient savoir d'où ils viennent et comprendre leur présent, lisez Moïse de Tétouan, sa mémoire en héritage, de Megor Hachim à Dimi, puis Citoyen français, paru aux éditions BOD. Merci Sylviane Serouillard, merci pour nous avoir fait partager vos connaissances.
C'est moi qui vous remercie.
C'était très agréable de vous entendre.
Eh bien, c'est un moment de partage très intense et très apprécié de ma part. Merci.
C'était Sylviane Serouillard qui était au micro d'Alexandre Rosenberg de Radio Judaïcane.